commencé à parler de la rénovation comme quelque chose qui allait apporter du mieux, en quelque sorte. Et là, c'était kafkaïen pour beaucoup d'entre eux.
Le seul truc qu'on a... Mais je pense pas que ça peut pas être ça. Le seul truc qu'on a fait, c'est ici. Comme des trous pour... Non, ça peut pas être ça, quoi. Non, c'est pas une fissure.
Ça peut pas faire une fissure comme ça.
Enfin, c'est que ça a bougé.
Donc Monique, ça fait combien de temps que tu habites dans cet appartement?
Un an pile.
Donc, un an pile et...
Et les surprises commencent.
Je constate une fissure dans le mur. Que j'avais pas vu et une tache d'humidité, donc il va falloir que je vois ça.
Bienvenue aux riches. Voici, comme promis, la deuxième partie de l'émission consacrée à la rue de la République. Hier, il a été longuement question du projet de réhabilitation dans son ensemble, son inscription dans l'opération Euroméditerranée et les conséquences qui en découlent. Vous aurez compris que la figure de la rue va très vite, d'ici 2 ans, complètement se transformer. D'une rue crasseuse, insalubre et pauvre, d'ici quelques mois, la rue de la République reprendra son caractère impérial avec à la fois des commerces chics, des arbres, des trottoirs larges et des habitants qui enfin payent des impôts. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans le processus même de la réhabilitation des logements, qu'est-ce que ça implique pour les locataires déjà sur place et qui ne correspondent pas tout à fait au profil désiré par les investisseurs. Antoine Richard, du collectif Un Centre-Ville pour Tous.
En fait, quelques années, c'est plus précis comme démarrage, disons, de l'implication d'un centre-ville pour tous qui n'existe pas seulement pour la rue de la République, mais pour tout le centre-ville de Marseille dans le cadre, disons, de la rénovation du centre-ville. Il y a des interventions depuis 2000, depuis l'existence de ce centre-ville pour tous, sur des questions qui touchaient beaucoup au quartier de Belsunce, de Panier, de Noailles. Sur le secteur République, ça date très précisément de l'été 2004. L'été 2004 où, quelques temps après que Marseille République, l'agence de la Lone Star, d'une part, et Euraseo ANF d'autre part, aient acheté aux sociétés qui étaient détentrices de ces immeubles le premier 40% du patrimoine immobilier de ce secteur, le deuxième, les autres 40%, les autres 20% étant, sans donner trop de précision, la propriété d'individus, dans des copropriétés de sommes de propriétaires, je dirais. Bon, donc ces deux gros propriétaires engagent une action, et dès lors, la première action de Marseille République, c'est d'envoyer des lettres à un certain nombre de locataires en leur disant, les lettres leur signifiant que leurs baux ne seront pas renouvelés, pour des motifs légitimes et sérieux. Ces motifs légitimes et sérieux, ce sont des obligations de rénovation fondamentales, importantes, des immeubles, qui fait qu'ils ne pourront plus habiter dans ces immeubles, en quelque sorte. Donc il y a un émoi, bien entendu. Certains habitants avaient déjà été un peu alertés, et donc certains s'étaient déjà un tout petit peu concertés entre eux. Tout n'est pas venu de Un Centre-Ville pour Tous, mais ce sont ces habitants qui sont venus rencontrer Un Centre-Ville pour Tous pour les aider, les appuyer, les aider à s'organiser un peu collectivement, apporter des appuis d'information, des avis juridiques, etc. Bon. Donc tout a commencé par là. Et le principe d'action de Un Centre-Ville pour Tous, c'est pas de faire à la place des autres, mais c'est de faire avec eux. Donc on a appuyé effectivement l'organisation de ces habitants locataires, et la première manifestation collective, ça a été un manifeste signé par 222 locataires de ce secteur qui, pour le résumer, disaient oui, nous sommes pour la réhabilitation, mais pas pour l'exclusion. Réhabilitation, on veut bien en profiter, et il y en a bien besoin. Il est vrai que, on ne va pas épiloguer là-dessus, mais l'état de ces immeubles était assez déplorable compte tenu que les propriétaires, depuis des dizaines d'années, n'avaient, les propriétaires, les grandes sociétés propriétaires de ces immeubles, n'avaient absolument pas entretenu leur patrimoine. Donc tout le monde était bien acquis à la cause de la réhabilitation. La divergence venait sur les objectifs à court et moyen terme des sociétés qui allaient les opérer. Ce qui s'est passé, c'est que Marseille République, alors là il faut comprendre la chose, Marseille République c'est une émanation d'un fonds de pension financier dont la logique est une logique d'investissement qui doit rendre des profits, je dirais, dans un temps déterminé et à un niveau relativement élevé. Je n'inventerai rien, je vous communiquerai un numéro spécial que nous avions écrit en novembre 2006 sur la rue de la République, où vous verrez des précisions sur les déclarations officielles du président Éric Foyliard, président donc, de Marseille République, sur les objectifs de Marseille République. Il ne s'en cache pas. Il ne s'en cache pas, il est clair. Il faut qu'en l'espace de 8-10 ans, les profits soient à hauteur de 18% pour ce fonds de pension américain. Et lui, il est l'exécutant de ces ordres des actionnaires, en quelque sorte. Et pour que ça aille vite et que ça produise bien, mais il faut vider les immeubles. Donc ça, c'est un peu la logique première. Mais la deuxième logique, c'est celle des gens qui habitent. Et là, celle-ci, soutenue par des associations du quartier, par un centre-ville pour tous, relayée par quelques institutions qui veulent quand même un peu réguler ces affaires-là. Je pense à la préfecture de région, mais aussi... Le conseil général, le conseil régional ont été alertés, la ville de Marseille a été alertée, Euroméditerranée a été alertée, par nos soins, mais peut-être aussi par d'autres, hein, nous ne sommes qu'une petite association, de certaines pressions inacceptables, quand je dis certaines, des pressions inacceptables, faites sur les locataires pour qu'ils évacuent les lieux. Donc ça a commencé en juillet 2004, par ce manifeste signé par 222 personnes et suivi quelques mois après par une mobilisation autour d'une manifestation à la mairie de Marseille qui a réuni environ 500 personnes rue de la République dirigée vers la mairie avec comme objectif d'alerter effectivement les élus de Marseille sur la nécessité d'envisager cette opération au bénéfice de la population et non pas seulement des actionnaires. Voilà, j'ai dit l'essentiel.
Éric Foyliard, directeur de Marseille République, l'un des deux grands propriétaires de la rue de la République.
Quand on a acheté, ce patrimoine, il était vide à 60%. Je dois dire que c'est ça qui permettait d'agir, parce que ce qu'on appelle en urbanisme les opérations tiroirs, c'est pas gérable si c'est plein. C'est gérable s'il y a au moins 50% de vide, pour pouvoir rénover les vides, mettre les gens dans les vides, dans les pleins, etc. Les logements que nous livrons aux bailleurs sociaux, on rénove tous les logements vides, mais au moment où donc on leur cède l'immeuble, tous les logements vides ne sont pas remplis, de manière à ce qu'ils puissent faire les tiroirs sur les gens qui habitaient déjà dans ces immeubles cédés, de manière à ce que... Alors l'opération va se faire au fil de l'eau, mais je pense, enfin bon, oui, c'est ça à peu près, que dans 3 ans à peu près, tout le monde aura été relogé. Alors après, ça se fait sur soi-même ou la cage d'escalier à côté. Tout le monde sera, enfin, tous les habitants seront, les anciens locataires seront dans des logements refaits à neuf. Quand on a acheté, nous, on avait pour la partie non prévue pour être cédée aux bailleurs sociaux, on avait 384 locataires à reloger pour pouvoir rénover leurs immeubles. Aujourd'hui, il y en a déjà 285 de relogés. Il en reste donc 99 à reloger. Ce qui sera fait...
Et tous sont relogés dans la rue de la République ou aux alentours
Pas forcément. Il y a des gens qui nous ont dit « Nous, on préfère partir. Aidez-nous à trouver un autre logement. Offrez-nous le déménagement, une petite prime, etc. » On en a eu quelques-uns comme ça. Il y en a eu 45 sur les 285 parties. Les autres, ils sont soit dans du logement social, soit nous avons conservé des immeubles aussi où on fait du logement de l'intermédiaire. Enfin, on est des loyers sur de l'intermédiaire, c'est-à-dire ça va de 5 à 7 euros. pour les gens qui n'étaient pas éligibles au logement social, pour pouvoir les reloger aussi. Alors ceux-là, on les a relogés dans certains de nos immeubles qui étaient en bon état, dont l'îlot 24, qui est le seul auquel nos prédécesseurs aient vraiment mis la main pour les remettre à niveau. Il nous reste donc 99 locataires à reloger, et compte tenu du patrimoine vide et toutes les solutions identifiées que nous avons dans un avenir proche, c'est-à-dire d'ici à la fin de l'été, on a 144 possibilités de relogement, ça veut dire qu'il reste un solde positif de 69. Ce qui donne une certaine flexibilité, parce que s'il y avait juste le même nombre de logements, c'est un critère insuffisant pour faire une gestion sociale qui soit harmonieuse, parce que un logement pour un logement, ça n'a pas grand sens. Quand vous prenez une famille de 5 enfants, si vous dites qu'il y a un autre logement, mais c'est un 2 pièces, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça qu'il était nécessaire qu'on ait de l'excédent, et nous avons de l'excédent. Voilà, donc ça se passe bien, quoi, y a pas... Voilà.
Monique Roussel, habitante relogée il y a un an dans un autre appartement de la rue de la République. Son propriétaire est aujourd'hui nouveau logis provençal, puisque Marseille République a revendu à des bailleurs sociaux les 30% de logements sociaux imposés dans la convention de réhabilitation.
Donc quand même logement social, il y a quand même des belles moulures au plafond du salon là.
Ils ont gardé quand même dans les pièces principales ce qui fait le cachet de l'immeuble, de l'appartement, les moulures du plafond, quand même les portes. Ils ont gardé aussi des portes d'origine qui sont très belles. Ça va, quoi. Ils ont pas, y a pas de cache-misère.
Les fenêtres aussi.
Ouais, mais les fenêtres, par contre, je crois qu'ils vont les changer. Hein.
D'accord.
Quand ils sont passés, le nouveau logis provençal, ils ont dit qu'ils allaient ravaler la façade normale et changer les fenêtres. Je pense que ça se fait pas dans l'immédiat. Hein,
la cuisine.
Alors, ils ont coupé une pièce en deux pour faire la cuisine. Et l'autre côté, la petite chambrette. En fait, c'était une seule pièce.
Ah oui, bien sûr.
C'était une seule pièce. Voilà. Donc, le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de fenêtre. Mais j'ai cuisiné et ça va, quoi. Les odeurs, elles s'en vont. C'est de ça que j'avais peur, surtout les odeurs et le gras. Et ça va, quoi.
Il y a une petite aération.
Bon, par contre, c'est pas du tout fonctionnel. Je peux rien mettre au mur. Ça tient pas. Donc, j'ai pas la place pour mettre des meubles. Donc, je suis encore en pleine installation savoir comment je vais...
Comment ça se fait que ça ne tienne pas? C'est des...
Non, parce qu'ils sont... Lui, ça tient, mais là, le mur, il n'est pas droit. Donc, du coup, il est bombé comme ça, et il est bombé comme ça. Donc, le meuble mural, il ne tient pas. Ici, c'est des cloisons pas très solides. Donc, c'est trouvé...
Si tu prends pas un clou, ça va de l'autre
côté. Parce que quand j'avais acheté les deux, moi, c'était pour les mettre ici. Et puis, en fait, quand ils sont venus pour l'installer, ils ont dit, mais on peut pas, sur ce mur, on peut pas installer. Donc, j'ai séparé en deux, et puis lui, il a pas tenu. Donc, il faut que je repense la cuisine pour essayer de trouver des...
Une astuce de rangement.
Voilà, une astuce de rangement. Okay. Donc c'est toujours en cours d'installation, quoi. C'est pas fini encore. Ça fait un an, mais en plus, comme je travaille, j'ai pas vraiment le temps.
Ça faisait combien de temps que t'avais pas déménagé?
Ça faisait 14 ans que j'étais dans l'ancien appartement.
Et donc, il y a un grand couloir quand même.
Ouais, il est grand, mais étroit. Donc on peut pas trop mettre de meubles. Je voulais mettre la bibliothèque, mais c'est pas possible. Donc voilà, ça c'est ma chambre. Ma chambre, elle donne dans la cour. C'est aussi une petite chambre. Ouais, ça c'est mes rideaux qui sont en attente d'installation.
Ouais, il y a la place d'un lit et puis un demi-mètre.
Voilà, il a fallu que je jette l'armoire.
Le lit. Ouais, d'accord.
Mon armoire, il a fallu que je jette parce que je ne pouvais pas la mettre.
Pile poil la place d'un lit et d'une petite commode.
Voilà.
Ah, par contre, j'ai une très belle salle de bain. Ouais, qui doit faire la même taille que la chambre.
Voilà. Qui est plus grande que ma cuisine. J'aurais bien aimé ma cuisine ici, mais bon, ça faisait un peu loin du salon. Ça c'est la salle de bain. Donc comme j'ai pas pu mettre d'armoire et que la salle de bain est grande, du coup mon linge il est ici.
Ah oui, d'accord.
Ça c'est mon buffet de cuisine qui est devenu mon armoire, et ça je l'ai acheté pour continuer à mettre mes draps. Mais... Bon, voilà, donc petit à petit, j'aménage au fur et à mesure, quand j'ai une idée.
Alors, comparé à l'autre appartement que tu avais, est-ce que tu peux nous... C'est quoi la différence?
La différence, ben, il est plus grand. Il est moins fonctionnel, beaucoup moins. L'autre, il était plus petit, mais bon, il était très pratique et très bien. Ben, il est tout neuf, hein, aussi. Mais ça, il est tout neuf. Moi, le mien, depuis 2000, je ne faisais plus rien parce que je savais qu'il allait y avoir des travaux. Je ne savais pas ce que j'allais devenir, donc je ne faisais plus de travaux dans l'appartement. Donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, il s'abîme, mais sinon, il était très bien entretenu, mon appartement. Donc voilà, donc là, tout est neuf, la rénovation est correcte, quoi. Puis il est plus grand, il est sur la rue, il est ensoleillé.
Il est ensoleillé?
Il est très ensoleillé l'après-midi, il est très clair, donc, enfin voilà, quoi. Mm-hmm. Non, j'ai pas... J'étais bien relogé, quoi. Je me plains pas à ce niveau-là.
Donc comment s'est passée la procédure de relogement? Quand on s'est rencontrés, c'était en 2005. Tu venais de recevoir effectivement une lettre attestant que ton bail allait se terminer en janvier. Il me semble que c'était
Ou juin. Voilà, ouais. J'avais reçu. C'était en août 2004. Ouais. Et je devais partir en janvier 2005 sans proposition de relogement. C'est-à-dire que j'avais cette lettre et après il fallait que je parte. J'avais 6 mois pour partir.
Disons que la proposition de relogement n'était pas spécifiée sur la lettre.
Ah non, c'était pas prévu, quoi. Moi, à mon avis, c'était pas prévu parce que quand on a commencé à en parler, on n'a eu aucune information, rien. D'ailleurs, depuis le début de l'Euro-Méditerranée, on était les premiers concernés, on n'a eu aucune information. S'il m'avait dit, dès le départ, bon, on vous envoie un non-renouvellement de bail, on va vous proposer un appartement, mais pour l'instant, il n'est pas encore disponible parce qu'il est en travaux, vous l'aurez dans un an, j'aurais pas fait tout le foin, voilà. Mais ils l'ont fait de façon pas correcte, et donc nous, on s'est défendu, ce qui était normal.
Il y a un vrai déficit de communication, en fait, de la part.
Tout à fait, mais depuis le début... Pas que Marseille République, d'Euroméditerranée, de la mairie, du conseil régional. À partir du moment où ils ont fait Euroméditerranée, qu'ils avaient inclus la rue de la République dans le projet Euroméditerranée, ils auraient dû communiquer dès le départ. Parce que dès le départ, nous, on essayait de trouver des informations à droite, à gauche. On allait à l'immeuble Communica, j'allais voir un peu tous les projets qui se faisaient au panier, un peu partout pour savoir, nous, ce qu'on allait devenir. Donc plusieurs fois, je suis allée à Euroméditerranée, mais... Ils étaient incapables de dire vous êtes dans tel immeuble à telle adresse, l'immeuble va devenir privé, social, des bureaux, mais même pas, on n'avait aucune information, on ne savait pas du tout. Donc c'est vrai que depuis le début, il y a eu un problème de communication, et c'est dommage parce que ça ne se serait pas passé comme ça si ils avaient mieux communiqué. S'ils avaient été plus corrects avec les habitants, nous, on n'est pas nimbres révolutionnaires, on n'a pas envie de se battre, quoi, on a envie d'être tranquille. Mais bon, voilà, nous, il fallait aussi qu'on soit protégés au niveau de la... Surtout, c'est-à-dire que s'ils avaient fait ça il y a 5-6 ans, où les loyers étaient encore corrects, peut-être qu'on ne se serait pas battu. Mais là, les loyers sont tellement inabordables, maintenant, on ne peut plus se reloger.
Oui, vous avez eu peur.
Moi, je ne pouvais pas le trouver 60 mètres carrés au prix que je paye. C'était pas possible. Avec le salaire que j'ai, c'était pas possible. Donc, voilà, c'est...
La République est arrivée quand est-ce que c'était ton propriétaire?
En août 2004, quand j'ai reçu mon renouvellement de bail. Ça a été le même jour. C'est tombé...
Nouveau propriétaire et une lettre de non-renouvellement de bail.
Ça a été vraiment le lendemain de la signature, quoi. Ouais. Genre, ça tombait sur les 6 mois... avant la fin de mon bail, mais bon, c'est voilà, c'était donc c'est vrai qu'on a un peu mal accepté cet état de fait, quoi, parce que je sais pas, bon, qui renouvelle pas le bail, pourquoi pas, mais qui nous propose quelque chose. Je veux dire, on avait 6 mois pour partir, puis basta, quoi. La rénovation se faisait dans un cadre d'utilité publique, avec des fonds publics et tout, et que dans tous les discours qu'il y avait, dans toutes les brochures, c'était marqué qu'il y aurait une mixité sociale, que la population ne bougerait pas, etc.
Qui s'engageaient à maintenir les logements pour les habitants, voilà. Pour ceux qui sont déjà, ou alors de les reloger.
Voilà, dans les bonnes conditions et tout. Donc, voilà, on s'est battu pour...
Effectivement, Merci République a embauché des entre guillemets, médiateurs, dont la mission était de créer le rapport avec les habitants pour les inviter à partir. Enfin, là, j'emploie des termes très châtiés. Donc, au point de départ, c'est accompagner ces lettres. On ne pourra pas renouveler votre bail, mais on va vous aider, on va vous donner des informations, vous pourrez vous reloger, etc. Bon, si les personnes ne réagissaient pas positivement, on allait un petit peu plus loin. C'est une médiation déjà un peu plus musclée, qui consistait à dire, mais vous savez, dans quelque temps... Vous verrez ça dans les témoignages que je vous cite là dans le document numéro spécial. Dans quelques temps, il n'y aura plus d'ascenseur. Et la pauvre dame qui est en face a 75 ans, elle habite au 5e étage, commence à avoir peur, elle a vu ses enfants, qu'est-ce qui va m'arriver, etc. Donc il y a des gens qui ont cédé à ces pressions. Je dirais avec un déni de droit considérable, quoi. Ils n'étaient pas informés de leurs droits. Mais des pressions plus fortes aussi, des personnes qui résistent dans un immeuble, qui sont plus très nombreuses, à qui... il faut des preuves, c'est difficile. Mais il se trouve que c'est sur eux que tombe de l'eau dans leur appartement, dans leur cuisine, parce qu'on a ouvert de l'eau au-dessus, un compteur a été débranché, l'eau s'est mise à couler, et pendant le week-end, ça a coulé chez eux. Et ça a coulé un jour, deux jours, avant que les ouvriers reviennent pour pouvoir réparer. Donc le pauvre locataire file à Marcy République dire « Écoutez, il y a des inondations, j'ai été inondé tout le week-end, etc. »« Ah, on n'est pas au courant, etc. »« Bon, ben, on va envoyer quelqu'un. » Ce sont les propriétaires, il faut bien qu'ils fassent quelque chose. Mais voilà, c'est démoralisant. C'est dur, c'est très très dur. Il y a eu des gens victimes dans leur santé de ce genre de pression. Et j'en citerai comme ça des quantités, je laisserai d'autres en parler aussi, parce que je suis indirectement, je suis au courant par les permanences, par les contacts, comme beaucoup d'autres de mes camarades de Centre-Ville pour tous. Mais vous auriez intérêt à rencontrer les habitants qui ont vécu ça.
Alors, ça se passe bien maintenant. Ah, ne vous brûlez pas.
Non, non, non.
Ça se passe bien maintenant, mais c'est vrai qu'il y a eu des périodes ou en tout cas des actions qui ont été menées par Marseille République qui vous ont été reprochées. Vous avez été condamné plusieurs fois pour avoir eu des procédures illégales vis-à-vis des habitants.
Ça s'est pas passé comme ça. Il y a deux ou trois locataires. C'est pas parce qu'on est dans le parc social qu'on est dispensé de payer son loyer. Qui voulaient pas payer leur loyer. Il y en a trois ou quatre comme ça et qui sont des procédures en appel. Aujourd'hui, ce sont des procédures en appel. Donc, faut pas dire qu'on a été condamné. C'est inexact. En première instance, quand les dossiers sont compliqués, dans le doute, alors ça c'est la tradition des tribunaux français, ils donnent raison aux locataires en se disant comme ça on laissera le boulot d'étude approfondie du dossier à la cour d'appel. Mmh. C'est un gros classique du mode de fonctionnement.
Ce qui est sûr, c'est que vous avez en tout cas mis des pressions et vous avez incité quand même les gens. Enfin, ouais. En tout cas, c'est ce qu'ils disent, quoi. Ouais, Je pense pas qu'ils auraient inventé le fait d'avoir été intimidé.
Non, quand vous dites c'est sûr, non, c'est pas sûr. Les gens disent ce qu'ils veulent. Ce que je peux dire, c'est que il y en a certains qui ont fait monter la pression pour partir avec le loto. Alors ça, c'est un autre problème. Je crois qu'il ne faut pas faire d'angélisme, c'est pas parce que les gens ne gagnent pas beaucoup d'argent qu'ils sont par principe et par définition vertueux. C'est trop facile. On a eu droit à beaucoup de procès de Prague, beaucoup d'inquiétudes des gens parce que Ils partaient du préjugé qu'on ne tiendrait pas nos engagements de reloger tout le monde, tous ceux qui voulaient rester dans le quartier, de les reloger dans le quartier, dans des logements neufs et au même loyer. Cet engagement a été tenu, on le tient tous les jours et on n'a jamais été pris en défaut sur ce sujet. Je vous demande pas de nous créditer d'avoir plus de cœur que les autres, mais faites-nous au moins le crédit d'avoir un minimum d'intelligence pour se dire qu'on ne rénove pas, qu'on ne participe pas à la rénovation d'une rue d'un kilomètre trois dans une ambiance d'émeute. Hein. C'est l'intérêt de tout le monde que la paix sociale règne et voilà, bon.
Pierre Figueras, directeur général adjoint d'Euroméditerranée.
D'abord, ils sont propriétaires, donc ils font ce qu'ils veulent de leur propriété. Simplement, ils ont, d'une part, comme tout le monde, ils ont l'obligation de respecter la loi. Bon, ça c'est la première chose. Deuxièmement, ils ont aussi des conventions qu'on a passées avec eux, notamment sur la réalisation d'un certain nombre de logements sociaux. 100 pour Euraseo, 300 pour Marseille République. Ces logements sociaux sont soit achevés, soit en cours d'achèvement. Donc, nous avons des conventions qui ont été signées avec ces propriétaires-là et on fait en sorte, sous l'œil encore une fois vigilant du préfet, que ces conventions soient respectées et appliquées.
Comment tu as fait, toi, donc, avec ta lettre de non-renouvellement de bail?
J'ai écrit tous les intervenants publics, c'est-à-dire au maire, au président du conseil régional, au président du conseil général. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que c'était pas prévu comme ça? Il était convenu que nous, les habitants de la rue de la République, on resterait dans le secteur et qu'on serait pas délogés. Donc je voulais avoir... je voulais qu'ils interviennent pour qu'il se passe quelque chose, quoi, de positif pour nous. Et puis, j'ai pas eu de réponse de Godin. Alors ça, Godin, il a jamais répondu. Pourtant, c'était des lettres avec accusé de réception. Le bureau de Guérini m'ont écrit en disant qu'ils allaient m'inscrire sur une demande de logement social, alors que c'est pas ça que je demandais. Et le bureau de Monsieur Vauzel ont dit c'est pas notre problème, c'est une opération privée, on peut rien faire. Donc, nous, on a commencé à se mobiliser. C'était au mois d'août. Il n'y avait pas grand monde. On s'est mobilisé, on a fait des tracts, on a distribué des tracts, on a mis des affiches, on a averti, parce que j'étais pas la seule, hein, quand même, avertir les gens qu'il fallait se mobiliser, qu'il fallait pas partir, qu'il fallait se battre pour rester dans le secteur, etc. Et puis, notre combat, ça a commencé comme ça. Et puis après, ça a pris de l'ampleur parce qu'il y a de plus en plus de gens qui recevaient des non-renouvellements de bail sans proposition de relogement. Et puis, jusqu'à la manifestation, on a averti les médias,
Et ça a marché.
Ça a marché, Moi, j'ai dit ça a marché parce que je pense qu'au départ, ils auraient pas dû faire de cette façon. Nous, on n'était pas contre la réhabilitation, au contraire. Nous, on était d'accord. Même, on était même d'accord de payer un petit peu plus, éventuellement, mais bon, que ce soit abordable quand même. Mais on n'était pas contre la réhabilitation. Nous, c'est au contraire. Mais avec nous, quoi. Nous aussi, on avait le droit de vivre dans des endroits propres. Je pense qu'au départ, ils n'auraient pas dû agir comme ça. Ils auraient dû nous réunir, nous parler un peu de leur projet, et puis de nous proposer des relogements. Voilà, c'est... correct. Le manque de correction.
D'avoir utilisé des méthodes quand même un peu agressives aussi...
Pour certaines personnes, oui. C'est-à-dire que moi, quand j'ai eu ça, j'ai essayé d'avoir un dialogue avec le responsable de Marseille République. Ça s'est mal passé. Donc j'ai laissé. J'ai dit puisque c'est comme ça, j'attends une proposition, quoi. J'attends quelque chose. Au bout d'un certain temps, la seule chose que je leur ai fournie, c'est mes fiches de paye et ma déclaration d'impôt. ils avaient que ça à savoir, quoi. Ils n'avaient pas à venir chez moi, parce qu'en plus, avec leur enquête sociale, ils passaient chez les gens. Enfin bon, ils essayaient de faire remplir des dossiers d'HLM, etc. Moi, il était hors de question, d'abord qu'ils passent chez moi, qu'ils me fassent remplir un dossier d'HLM alors que je n'avais rien demandé. Donc voilà, donc, ça fait qu'on n'avait pas de contact, on n'avait plus de contact avec Marseille République. Et puis, jusqu'à ce que je leur ai envoyé ma fiche de paye. Et puis, ben voilà, après, c'était... j'ai eu un premier contact avec M. Castagnier, un des médiateurs, pour montrer que j'étais de bonne volonté et que... Voilà. Donc, je leur ai amené ma fiche de paye et ma déclaration d'impôt. Et c'est là que j'ai... Avec M. Castagnier, on a pu avoir un contact... normal, sans agressivité. Et là, M. Castagnier s'est engagé à me reloger dans les futurs logements sociaux, qui allaient devenir sociaux. Il s'est engagé, donc j'avais demandé une lettre écrite, il l'a écrite, et donc voilà, donc j'avais cette garantie.
C'était quoi les conditions pour avoir l'accord d'être relogé dans un logement social ?
Les revenus. Il fallait que les revenus soient pas trop bas et pas trop hauts. Donc je rentrais dans cette catégorie. Donc voilà, donc j'avais eu cette lettre, je ne sais plus quelle date c'était, parce que au niveau de la chronologie, j'ai un peu de... et puis les mois, en plus, bon, donc j'ai cette discussion avec M. Castagnier qui a duré un moment, et puis il me dit, je vous contacte dans 15 jours, puis 15 jours, bon, évidemment, pas de contact, les mois passants, pas de contact, donc je crois que c'était en septembre 2006, Non, pas
et donc là, tu continuais à payer ton loyer à Marseille toujours. République alors que tu avais reçu une bail de non.
Voilà,
enfin,
j'étais
une
plus.
De
voilà, oui, je continuais à payer mon bail, mon loyer, mais j'étais plus, j'avais plus de bail. Ouais, c'est-à-dire que j'occupais un appartement sans droit ni titre. J'étais plus locataire, voilà, j'étais pas squatteur non plus, mais.
S'il est arrivé quelque chose dans cet appartement,
J'étais assuré. J'étais assuré. J'avais prévenu mon assurance. J'étais assuré. Je payais toujours mon assurance. Non, je continuais à vivre, payer mon loyer, mes charges, payer mon assurance. S'il y avait un problème, l'assurance s'en chargeait, quoi. Et
finalement, tu n'étais plus lié au propriétaire, sauf moralement.
Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. J'avais reçu un courrier de Marseille République, je sais plus à quelle période, où il me disait, c'était au bout des 6 mois, quoi. Longtemps après les 6 mois, en disant qu'il fallait que je parte, que j'occupais un appartement sans droit ni titre, et que il fallait que je parte. Et bon, je le laissais pisser. Je le laissais aller. J'attendais, il était hors de question que je m'en aille sans relogement, sans qu'on me propose un appartement dans les mêmes conditions, dans le quartier, parce que je voulais rester dans le quartier. Donc donc les mois passants, c'est en février de l'année dernière, j'étais partie au Québec pour le décès de mon frère. Et quand je suis revenue, j'avais 7 messages sur le répondeur, et donc M. Castagnier me proposait de visiter un appartement. C'était la première proposition que j'avais au bout d'un an et demi d'attente. Et puis, il m'a convenu de suite, donc je l'ai pris, et en 15 jours, j'ai déménagé.
Ah oui, ça allait très vite après.
C'est moi qui ai voulu faire très vite, parce que je voulais m'installer, quoi, parce que ça faisait un an et demi que j'étais dans un appartement qui n'était plus le mien, que je pouvais pas investir dedans, parce que je voulais réaménager pour faire un emplacement pour mes petits enfants. Donc il fallait que je reprenne mes marques, quoi. Il fallait vraiment que je me réinstalle et que je puisse aménager comme je voulais. Donc, comme ça a pu se faire très vite, je l'ai fait très vite. En 15 jours, ça s'est arrangé. Ils m'ont offert le déménagement. Voilà.
Éric Foyard, directeur de Marseille République, l'un des deux grands propriétaires de la rue de la République.
Donc, les locataires qui se retrouvent dans le patrimoine cédé aux sociaux, ils passent de statut de baux privés, soit des baux de la loi de 48, soit de la loi de 89, au statut de locataire du parc social. qui est un statut qui est le plus, qui est beaucoup encore plus protecteur que le statut de loi de 48, comme vous le savez. Donc voilà.
C'est-à-dire que là, même s'ils ont un bail qui court sur 6 ans, dans 6 ans, ils ne risquent pas d'être à nouveau inquiétés.
Les baux dans le cadre de logements sociaux sont des baux sine die. Ce qui d'ailleurs pose, pas dans ce cas-là, mais à d'autres endroits, le problème de gens qui rentrent dans le parc social parce que leurs ressources sont inférieures au plafond de ressources et donc ils sont éligibles au logement social. Et il y en a certains, 15 ans après, s'ils faisaient un dossier pour entrer dans le social, l'âge venant, l'évolution professionnelle font qu'ils gagnent plus, ils n'y auraient plus droit. C'est une des causes de saturation du logement social en France. C'est comme ça. Voilà.
Peut-être à l'opération financière, parce qu'effectivement, là, c'est le logement social, c'est pas forcément ce qui rapporte ou ce qui est le plus rentable.
Non, ça, c'est une opération qui est plutôt à perte, puisque quand on en fait le bilan global pour notre société, c'est une perte de 15 millions d'euros, plus de 100 millions de francs. Voilà. Donc, mais c'est comme ça, ça fait partie des données générales du problème. Donc 400 logements sociaux, 300 logements en accession à la propriété, 500 logements en locatif, intermédiaire ou libre, et puis à dose homéopathique, il y a un ou deux immeubles où on fait des opérations de bureaux pour répondre à des demandes extrêmement spécifiques qui sont liées à la carence de bureaux dans l'Euroméditerranée. Bon, voilà. Euroméditerranée remporte un très grand succès. Malheureusement, les choses vont à la vitesse où elles vont. Et le désir qu'ont les entreprises de venir s'implanter, parce que c'est essentiellement des décentralisations, de venir s'implanter à Marseille, est supérieur à l'offre en temps instantané. Ça marche très bien. Euroméditerranée, les livraisons d'immeubles se font en flux tendu. Il n'y a pas de stock vide, il n'y a pas d'immeubles de bureaux vides, etc. Bon, ça, c'est bien pour le renouveau de Marseille parce que c'est de la création d'emplois. En ce qui concerne les emplois, nous, on s'est livré un calcul en salaire direct et indirect, enfin en emploi direct et indirect, mais non pas dérivé. L'emploi dérivé, c'est que quand vous posez des doubles vitrages, à un moment donné, il y a chez Saint-Gobain des gens qui ont fabriqué. Donc, en emploi directement induit, c'est 450 emplois sur une période qui aura duré 4 ans. Voilà. Ça sont les entreprises, architectes, bureaux d'études, les artisans, les fabricants. Un exemple, c'est 7200 fenêtres à changer, la rue de la République. Vous voyez, on est dans des échelles absolument extraordinaires. 7200 fenêtres qui sont les mêmes qu'avant, parce que les fenêtres comme les façades sont classées, et qu'on refait les mêmes, qui sont évidemment à aucune norme de cote industrielle d'aujourd'hui, mais avec le double vitrage, isolation phonique et thermique. Voilà.
We'll be right back.
Voilà.
Alors pour revenir peut-être effectivement sur la population qui a acheté...
Aujourd'hui, les gens qui ont acheté, je vous le fais en pourcentage, on a 60% de Marseillais, un peu plus, entre 60 et 65% de Marseillais. Et ça, déjà, c'est une bonne surprise, puisque quand on est arrivé, histoire de nous faire peur, on nous a expliqué que les Marseillais, ils y croiraient dans 5 ans. Bon, on s'est dit, comment on fait ? Parce que, bon.
Vous n'êtes pas Marseillais ?
Moi, je suis Varois. Voilà. Mais bon. Ah, mais c'est pas pareil. Vous savez, Marseille, c'est comme la République de Gênes. C'était une ville. Ça est de moins en moins, mais c'était une ville à part. Rentrée tardivement dans la France, très indépendante. Enfin, vous connaissez l'histoire de Marseille. Ouais. La ville insolente. Voilà. Une grande tradition d'insolence ici.
Donc vous êtes rentré quand même dans cette ville insolente.
Ah ben oui, absolument, parce que de s'atteler au sujet de refaire, de repositionner une rue, de faire une réhabilitation urbaine, ça présente un intérêt intellectuel absolument considérable. C'est très exaltant de faire ça. Je veux dire, on a le sentiment, et c'est un sentiment qui est partagé avec le reste des gens qui travaillent dans ma société, vraiment, on a le sentiment de contribuer à quelque chose qui est beaucoup plus puissant que quand on réalise un immeuble de 30 logements, au milieu de... Voilà, bon.
Alors, juste pour finir, justement, on n'a pas fini un petit peu la classification des nouveaux habitants.
Oui, pardon, alors les Marseillais. Ensuite, 15% d'Aixois. Grosse surprise. Ah ouais. Grosse surprise. 15% d'Aixois. Alors, bon, au-delà d'expliquer aux gens les plans des appartements, le descriptif technique et le... Et les aider à monter avec les banques leur plan de financement pour le prêt bancaire, pour acquérir. On leur parle, évidemment, et c'est intéressant. On leur parle, on a une équipe commerciale de 10 personnes et on essaye de comprendre. Bon, on essaye de comprendre leur motivation. Alors, les Aixois. Alors, ce sont pour la majorité d'entre eux des Aixois qui travaillent soit à Marseille, soit au port, y compris jusqu'à Berre, etc. Alors, il s'agit de gens qui ont été mutés à Marseille, à titre professionnel, entre eux, il y a 20 ans et il y a 5 ans. À l'époque, quand vous mutiez un Parisien, un Lyonnais, un Lillois à Marseille, sa première démarche, c'était d'aller faire les agences à Aix. Hein, on voulait bien travailler à Marseille, pourquoi pas, mais l'idée d'y habiter, bon. L'image de la ville a complètement changé. L'image de la ville a complètement changé, c'est une ville qui bouge, c'est une ville, n'en déplaise aux gens qui ne veulent pas sortir de leurs préjugés, qui aujourd'hui a la deuxième offre culture-loisirs de France après Paris. Devant Lyon, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans. Alors, c'est toujours difficile de quantifier l'offre culturelle, mais nous, on l'a fait dans le cadre de nos études, en comptabilisant le nombre de sièges de cinéma présents et en devenir, proches, le nombre de sièges de théâtre, opéra, les galeries, mètres carrés de galeries, mètres carrés de musées, sièges de restaurants ou bistrots, etc. Deuxième offre culturelle de France. Bon, culture, loisirs, bon. La ville est devenue beaucoup plus désirable. Les différentes actions en cours de rénovation aussi, tout le quai de la Joliette, je dirais étendu, hein, de la tour CMA jusqu'au J4 avec le MUCEM, encore un nouveau musée. Bon, tout ça fait que Marseille est une ville de plus en plus, et qui va être de plus en plus agréable à habiter, c'est certain. Donc voilà, ça c'est l'attrait. Alors ensuite...
Et les Marseillais, les 60% de Marseillais, qui sont-ils ?
Alors, on est dans une tranche d'âge qui va de 27 à 30 ans à 60 ans. On a vraiment de tout. Alors, où travaillent-ils ? Ils travaillent dans l'Euroméditerranée, DOC, parce que l'Euroméditerranée, on pense toujours au DOC, mais c'est le périmètre d'intervention est assez étendu. Ils travaillent à la Belle de Mai. On a beaucoup de jeunes du monde de l'audiovisuel, enfin beaucoup, oui, une douzaine, peut-être 15, je ne sais pas, qui ont acheté chez nous. Bon. C'est assez divers. Mais voilà, ils viennent de différents quartiers de Marseille. Nos acquéreurs, il y en a un tiers qui était propriétaire ailleurs, Donc ils revendent pour acheter là, et deux tiers qui étaient locataires. Donc ils font l'acte d'acquisition d'un logement. Après, donc, un peu plus de 60% de Marseillais, un peu plus de 15% d'Aixois. Ensuite, on a une dizaine de pourcents qui sont des gens qui sont à moins de 5 ans de la retraite et qui achètent qui vont louer en attendant et qui achètent pour prendre leur retraite à Marseille. Parmi ces gens-là, qui sont essentiellement des Lyonnais et des Parisiens, mais enfin pas tous, parmi ces gens-là, aucun d'entre eux, à ma connaissance, n'a déjà travaillé à Marseille où il y a des attaches familiales. C'est aussi le témoignage d'une remontée très forte de l'image et du désir de Marseille. Cette clientèle, traditionnellement, elle allait soit vers Languedoc-Roussillon pour se retirer quand elle voulait prendre sa retraite au soleil, soit dans les Alpes-Maritimes. Alors vous avez derrière ça l'image de Marseille beaucoup plus séduisante, l'effet TGV, qui est considérable aussi. On est à 1h30 de TGV de Lyon. Il y a des dames qui nous ont dit « Bon, moi je suis grand-mère, je peux faire l'aller-retour à Lyon, emmener les enfants, mes petits-enfants au parc de la Tête d'Or, le soir on est rentré. » Formidable. Bon. Voilà. Ensuite, on a... ça, c'est l'effet du low-cost, MP2. On a 7 ou 8 acquéreurs qui sont des familles. Je dis des familles, c'est important, vous allez voir pourquoi. De Dublin ou de Londres, des gens plutôt jeunes, ils ont environ 35 ans, des enfants petits dans le primaire ou même dans le secondaire pour certains, et qui ça c'est l'effet low cost, qui disent nous on fait des métiers où on n'est pas obligé d'être forcément collé dans notre bureau les 5 jours par semaine, du moment que là où on se trouve, il y a un câble au débit. Ça tombe bien, la République a été équipée aussi de câbles au débit. Sauf erreur de ma part, il y a même 4 opérateurs, ils ont le choix. Et ils disent, on montera 2 jours par semaine dans le Grand Nord, c'est-à-dire une nuit sur place là-bas. Et là-bas, on garde un minuscule studio et on habite ici, et on a le soleil, la mer, et on mettra les enfants au lycée international de Luynes. Voilà. On pourrait aussi, si on fait de l'économie, les assimiler à de l'export aussi. Parce que c'est des gens qui vont être payés à Londres et qui, en fait, ils vivront. Donc, ils dépenseront leur argent ici. Hein. Ils iront dans les magasins ici, etc. Quoi. Bon, voilà. Donc, tout ça, c'est... On retrouve la tradition de Marseille, ville désirable. Voilà, où les gens ont envie de s'implanter. Si les différentes couches d'immigration sont implantées à Marseille, c'est parce que c'était un port, mais c'est pas juste parce que c'était un port. Il y a d'autres endroits qui étaient des ports où les gens accostent avec les bateaux et ils se dépêchent de partir parce qu'ils n'ont pas envie de rester. C'est pas le cas de Marseille. Voilà.
Merci beaucoup, Éric Foyat. Une nouvelle population arrive donc sur Marseille, et cette fois-ci, pas par bateau. Voilà de quoi réjouir Jean-Claude Gaudin, qui a déclaré vouloir attirer des gens qui payent des impôts. Mais il me semble tout de même que même si une classe moyenne supérieure arrive, le besoin de logements sociaux n'en est pas moins important. La population actuelle de Marseille ne va pas complètement se désintégrer. Comment Euromed répond donc à cette demande ? Pierre Figueras, directeur général adjoint d'Euroméditerranée.
On gère ça en disant qu'il faut continuer à produire des logements, il faut en produire beaucoup plus. Et il faut continuer à installer des emplois, et il faut proposer des emplois à différents niveaux de qualification. Depuis le lancement de l'opération, les emplois qui ont été créés, dans les immeubles qui ont été construits, les emplois correspondent à des niveaux de qualification qui sont déjà assez élevés. On parle de Bac plus 2 le plus souvent. Bon, donc on sait bien que ces emplois ne sont pour la plupart pas accessibles aux habitants du quartier qui, c'est une des caractéristiques du Marseille, c'est un niveau de moyenne qualification, notamment des jeunes, qui est assez faible, pour pas dire très faible. Donc il y a un enjeu de proposer des emplois qui soient accessibles, qui est très important. Alors on pense que les filières qui vont se développer maintenant, le commerce, la restauration, l'hôtellerie, les services à la personne, vont pouvoir proposer des emplois à des niveaux de qualification plus faibles. Ce qui ne veut pas dire que c'est des emplois... Enfin, sachant qu'il y a un enjeu de qualité de service dans ces métiers-là, qui est aussi aussi très important. Hein. Donc un des enjeux, c'est de continuer à créer des emplois, mais en essayant d'élargir la gamme des qualifications auxquelles ces emplois s'adressent. Première chose. Deuxième chose, c'est de produire en nombre beaucoup plus important, en volume beaucoup plus important, des logements. Pour faire cela, nous, ça a été la base de notre réflexion pour élargir le périmètre, en disant l'objectif initial confié à Euroméditerranée en 1995, c'était de construire 4000 logements neufs. On en est à 2000 et nos perspectives nous montrent que d'ici 3 à 4 ans, on pourra dépasser le chiffre de 4000, vraisemblablement, on espère pouvoir le dépasser, mais que d'ici 3 à 4 ans, on sera au bout des possibilités foncières dont on dispose. Pareil à un peu plus lointaine échéance en matière de bureaux. Donc c'est pour ça qu'on a proposé aux élus et aux différents partenaires d'Euroméditerranée d'étendre le périmètre de l'opération internationale en disant, pour continuer à proposer des nouveaux emplois, pour continuer à proposer des nouveaux logements, y compris des logements sociaux, pour répondre aux besoins des Marseillais et pour répondre à l'enjeu de rayonnement de Marseille, il faut trouver de nouveaux espaces. Et donc, c'est pour ça qu'on a proposé d'étendre le périmètre. Alors, les discussions sur le périmètre exact ont pris un peu de temps, parce qu'il fallait mettre tout le monde d'accord, ça n'a pas été complètement simple. Mais jeudi dernier, on y est arrivé, et le conseil d'administration donc, a validé à l'unanimité des participants le futur périmètre d'Euroméditerranée. On espère que le décret qui donc met en place cette extension pourra être pris dans les mois qui viennent.
Merci beaucoup, Pierre Figueras.
Merci.
Pas me plaindre parce que j'en ai vu d'autres d'appartements qui n'étaient pas aussi bien rénovés. Donc non, franchement, je me plains pas. Non. Et puis j'ai la place pour les petits-enfants, parce que c'était surtout ça que je voulais, qu'ils aient leur lit et leur coin pour jouer, voilà. Donc ça, je l'ai. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais.
Très bien.
Ce que je vais vous dire, j'ai une certitude, c'est que si un centre-ville pour tous et quelques autres associations ne s'étaient pas mobilisées autour de la défense des droits, nous n'aurions sûrement pas le même taux de présence des personnes qui habitaient ce secteur sur ce secteur aujourd'hui. Ça, j'en suis convaincu.
Merci.
C'était Bienvenue aux Riches, deux émissions consacrées à la réhabilitation de la rue de la République. Je vous invite à consulter le site de Radio Grenouille, www.grenouille888.org, pour écouter, télécharger ou podcaster ces émissions. Ciao à tous!